Et la cloche retentit, vous l'entendez. Nos experts sont là, USA Today, John Plassard. Bonjour John. Depuis les bureaux de Mirabeau, Étienne aussi est avec nous, depuis la tour Euronext. Bonjour Étienne. Comment se passe ce début de séance aux États-Unis, Étienne?
Eh bien écoutez, c'est du vert sur les trois indices américains, avec notamment un indice Nasdaq qui continue de surperformer, hein, comme la semaine dernière. Hein, il a gagné 4,2% la semaine dernière, le Nasdaq, meilleure semaine depuis novembre dernier. Là, il grappille 0,6% et retrouve les 16 000 points, plus 0,3% pour l'indice Dow Jones, au-delà des 38 300 points, quand le S&P 500, de son côté, gagne 0,4% au-delà des 5 100 points. Semaine très importante avec de nombreuses publications d'essais magnifiques avec la Fed également. En attendant, vous avez Apple qui soutient très clairement la tendance. Nous en reparlerons dans un instant avec John. La valeur soutient l'indice Nasdaq grâce à une hausse de 2,7%. Amazon également gagne 1,9%. Et puis Tesla gagne plus de 10% aujourd'hui. Et le groupe est à nouveau à la porte des 600 milliards de valorisation boursière. Du côté des taux, vous avez l'euro-dollar qui tente de franchir les 1,07, mais c'est une nouvelle fois compliqué. 1,0697. Et puis sur le front des taux, ça se détend avec un 10 ans américain qui perd 3 points de base à 4,64, quand le 2 ans de son côté est stable à 4,98. Et donc Wall Street qui ouvre dans le vert pour commencer cette semaine avec 3 indices américains qui gagnent entre 0,3 et 0,5%.
Et John avec nous en direct depuis les bureaux de Mirabeau. Bonjour John, ravi de vous retrouver pour ce début de semaine. Alors en Europe, enfin sur la plupart des marchés européens, pas tous, ce sera la semaine en 4 jours là. Oui, la semaine en 4 jours, parce qu'il n'y aura pas de séance le 1er mai. En revanche, en Suisse, le marché suisse que vous connaissez bien, comme aux États-Unis d'ailleurs, bah, ce sera une semaine complète, effectivement, et même la semaine de tous les dangers à Wall Street. Pourquoi la semaine de tous les dangers, John?
Bah écoutez, on va avoir tellement d'événements, Guillaume. Demain, c'est la confiance du consommateur aux États-Unis. Mercredi, c'est la réunion de la Fed. On a en plus de la réunion de la Fed que tout le monde attend, les PMI d'avril et l'ADP de l'emploi. Jeudi, on aura la balance commerciale et les commandes industrielles. Et vendredi, l'emploi américain d'avril. Et vous savez que ça fait depuis plusieurs mois qu'on attend une baisse des créations d'emplois. Là, on en attend 250 000 contre 303 000. Création d'emplois le mois précédent en mars, mais à chaque fois on a été surpris à la hausse et le taux de chômage devrait être de 3,8%. Mais qu'est-ce qu'il va falloir suivre aussi? Ben, c'est les entreprises américaines, Apple, Amazon, 3M, Coca-Cola, McDonald's, PayPal, AMD, Mastercard, Pfizer, Amgen, Moderna et Novo Nordisk, notamment. Toutes ces entreprises et toutes ces informations macroéconomiques vont dicter cette semaine qu'on peut considérer comme une semaine de tous les dangers, Guillaume.
Ah oui, effectivement, donc Apple, Amazon dans la tech, et puis toujours le match de l'anti-obésité, ça va être intéressant cette semaine, parce qu'on aura, alors vous le disiez, la publication de McDonald's ou encore Coca-Cola, ce sera demain, McDo, Coca, bon, l'anti-obésité, compliqué. Et en face, justement, les spécialistes des médicaments anti-obésité, Eli Lilly et Novo Nordisk, qui tous les deux vont publier. Ce sera intéressant, ce match, effectivement, autour de l'anti-obésité, cette semaine, aux États-Unis. Puis cette semaine aussi nous amènera dans le mois de mai, après-demain, première séance du mois de mai. Il y a cet adage boursier bien connu, sell in May and go away. Est-ce qu'il faut donc parier, oui, sur une baisse des marchés au mois de mai, John?
Bah écoutez, c'est une très bonne question parce que tout le monde en parle et tout le monde va en parler le 1er mai. Alors, on essaye d'anticiper un petit peu ces mouvements et on voit que depuis 1990, bah tenez-vous bien, le S&P 500 entre mai et octobre a gagné en moyenne 2%. Alors que si vous regardez entre novembre et avril, donc les 6 autres mois de l'année, c'est plus 7%. Donc, on voit ici que historiquement, entre mai et octobre, eh bien, les marchés ont 80% de chances de progresser, mais un peu moins que dans les autres mois, les mois d'hiver. Mais ce qui est très intéressant ici de regarder, c'est que normalement, durant ces fameux mois de mai à octobre, eh bien, c'est plutôt les valeurs défensives qui s'en sortent, alors que entre octobre, novembre et avril, eh bien, c'est plutôt les valeurs cycliques et les valeurs technologiques. Et donc, c'est très intéressant de regarder que souvent, on a des changements, non pas des ventes sur le S&P 500, mais plutôt des changements dans l'allocation sectorielle aux États-Unis. C'est quelque chose qu'il faut regarder de très, très près. Et il y a notamment des fonds qui jouent cette thématique du sell in May and go away, non pas en vendant les valeurs, mais en changeant les valeurs dans les portefeuilles.
Effectivement, à surveiller. Donc, et la campagne américaine, vous la faites vivre chaque jour. On est à 192 jours désormais de cette présidentielle. et vous nous alertez, John, sur la cote de popularité de Joe Biden. Il est, Joe Biden, l'un des présidents les plus détestés de l'histoire américaine.
Oui, ça paraît assez fou, ça continue. Il a atteint ce week-end la cote d'approbation la plus basse de son mandat. Il est à 38,7%. C'est le plus mauvais score depuis les 9 derniers présidents. Il faut rappeler ici que le président qui était le plus détesté avant était George W. Bush. Il avait 41,8% d'approbation. Et celui qui était bien le préféré des Américains, c'était Eisenhower avec 73,2%. Alors évidemment, Guillaume, vous allez me dire... Trump, où est-ce qu'il est, Trump, au 13e trimestre du mandat, eh bien, il était à 46,8 contre, je le répète, 38,7 pour Joe Biden. Donc, bien évidemment, ça va être un chiffre qu'on va continuer à suivre, puisque on rappelle quand même que les élections, c'est pour bientôt aux États-Unis.
Effectivement, ça approche. Et vous nous faites vivre cette campagne donc au jour le jour sur ces États-Unis qu'on suit dans USA Today. 15h30, l'ouverture à Wall Street en direct. Et ça se passe bien. Après quoi ? 8 minutes de cotation désormais. Les indices sont dans le vert. Le S&P gagne 0,3%. Le Nasdaq gagne aussi 0,4%. Et un titre en hausse, Tesla, nette hausse après la visite d'Elon Musk en Chine. Une visite d'à peine 24 heures dont Elon Musk repart victorieux. On peut le dire comme ça, John ?
Oui, tout à fait. C'est une énorme victoire pour Tesla. Il faut rappeler une chose ici, qu'il y a eu un accord qui a été signé avec Baidu, qui est la principale société chinoise de recherche sur Internet. Et cet accord concerne les licences cartographiques pour la collecte de données sur les routes publiques chinoises. Eh bien, tenez-vous bien, Guillaume, ça va aider le système de conduite automatique ou qui aide à la conduite qui s'appelle FSD, le Full Service Driving, que Tesla va imposer en Chine. Et vous savez que la Chine, c'est très très important pour Tesla. Pourquoi ? Parce que c'est 23% du chiffre d'affaires en 2023. Et je vous rappelle quand même qu'on a parlé tout au long de ces semaines de la concurrence qu'il y a de plus en plus avec les acteurs sociaux comme Xiaomi ou Huawei. Et effectivement, on a dit que Tesla perdait des parts de marché. Mais ici, avec sa licence et son système d'aide à la conduite automatique, Tesla va engranger énormément d'argent. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour Elon Musk et bien évidemment pour Tesla.
Et le titre Tesla gagne 13%. Oui, plus 13% après donc cette visite victorieuse d'Elon Musk, effectivement, en Chine, qui parvient à franchir les obstacles réglementaires qui, jusqu'ici, l'empêchaient de déployer son logiciel de conduite autonome FSD en Chine. Et bien, ça y est, il a obtenu gain de cause et donc ce titre Tesla gagne 13%. Autre tech qui cartonne, Étienne en a dit un mot, Apple, qui fait un pas de plus dans l'intelligence artificielle, ça plaît au marché, le titre Apple gagne plus de 3% aujourd'hui.
Oui, alors on se souvient, il n'y a pas très longtemps, Apple avait déclaré qu'il n'allait pas imposer son propre système d'intelligence artificielle parce qu'il avait dit quasiment officiellement qu'il était en retard sur d'autres acteurs. Et donc ici, apparemment, il faut que ce soit encore confirmé, mais il va s'allier à OpenAI qui est en partie détenu par Microsoft, et OpenAI pourrait être intégré dans tout ce qui est écriture automatique et notamment sur Safari. On imagine ici que ce serait une avancée majeure pour Apple. Maintenant, la question, bien évidemment, que se posent les analystes sur la tech, c'est que est-ce que ceux qui ont les iPhones vont adopter ce type d'intelligence artificielle et cette aide à la recherche, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de gens qui veulent seulement rester sur des produits Apple. Donc il y a des interrogations quand même, même si c'est une avancée majeure qui est saluée aujourd'hui sur les marchés financiers.
C'est vrai, plus 3% Apple. En revanche, Alphabet, la maison mère de Google, perd 2,5% ce titre Alphabet, alors que Google annonce son intention d'investir 3 milliards de dollars dans des centres de données dans l'Indiana et en Virginie.
Exactement, c'est évidemment l'essor de l'intelligence artificielle qui va accroître la demande pour le cloud, la demande d'informatique dématérialisée. On sait que c'est quelque chose à la mode ces derniers temps, puisque lors de la publication des résultats d'Alphabet et de Microsoft, on a vu qu'il y avait une très très forte demande pour le cloud, initiée par tout ce qui était lié à l'intelligence artificielle. Alors le marché n'aime pas tellement aujourd'hui la nouvelle parce que les investisseurs estiment que c'est un peu cher payé pour quelque chose qui fondamentalement n'était pas extrêmement urgent comme annonce à faire, et donc c'est pour ça qu'on perd un peu sur le titre aujourd'hui.
Effectivement, USA Today chaque après-midi, l'ouverture des marchés américains, et si vous avez des questions sur vos portefeuilles, n'hésitez pas ces questions à nous les envoyer. Dans quelques minutes, Culture Bourse, Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondront vos questions en flashant, en scannant le QR code qui va apparaître sur vos écrans tout au long de l'après-midi, ou encore par mail. Vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Un dernier mot en dessert sur le dessert sera des pizzas aujourd'hui, John, sur Domino's Pizza qui a publié ses résultats, son chiffre d'affaires, c'est finalement un peu mieux qu'attendu pour Domino's Pizza.
Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant de noter que la demande a été dopée et tirée par l'amélioration des programmes de fidélisation et d'autres offres promotionnelles. On se souvient aussi que Domino's Pizza, en septembre, avait fait un accord avec Uber Eats, ce qui a permis de relancer la demande de livraison. Et on voit ici qu'à un magasin comparable, les ventes sont meilleures qu'attendues, 5,06%, alors que le consensus attendait 4,04%. Donc c'est aussi des résultats qui sont très bons pour Domino's Pizza, malgré le fait, on en parlait avant, que c'est plutôt des aliments dont les ventes pourraient baisser face à l'arrivée de produits d'Eli Lilly ou évidemment de Novo Nordisk sur le GLP-1.
Oui. Effectivement, et GLP-1, donc les produits anti-obésité, on en reparlera cette semaine. Demain, Eli Lilly publie ses résultats. Jeudi, ce sera au tour de Novo Nordisk. Merci beaucoup. John Plassard, USA Today, avec nous depuis les bureaux de Mirabeau.